Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 2 octobre 1991.
Reprends les bonnes habitudes, un cours avant le petit déjeuner pour ouvrir vos intelligences après avoir ouvert vos cœurs au Seigneur. Vous ouvrez vos intelligences au Seigneur. On aura tout à l'heure un cours pour la première année d'introduction à la philosophie d'une façon générale. Donc ici, c'est voir ce que représente la philosophie première, ce que nous avons vu l'année dernière et ce que nous verrons cette année. La philosophie première, j'aime bien l'appeler philosophie première et non pas métaphysique, pour des tas de raisons. C'est ce que saint Thomas appelle métaphysique. Alors, le nom philosophie première date d'Aristote. C'est le nom propre que donne Aristote. On l'appelait métaphysique. C'est les bibliothécaires qui ont fait ça. Des choses historiques. Parce que les livres d'Aristote ont été perdus. Démon. Et puis on les a découverts ensuite, puis on a vu les livres de physique, puis après autre chose, alors on dit métaphysique. Donc vous voyez que le terme métaphysique, qui est celui qui a prévalu de fait, est un terme qui ne signifie pas grand chose. Tout simplement, après la physique, il y a la métaphysique. Et puis après, ça a pris d'autres noms. On l'appelait ontologie. C'est très curieux de voir ça. C'est intéressant, du reste, parce que le nom exprime quelque chose. Mais comme dit saint Thomas, la philosophie ne consiste pas à discuter sur les noms. Mais le nom permet la communication. Comme aujourd'hui, la communication prend une importance énorme, et certaines personnes vivent de la communication sans savoir ce qu'ils communiquent. Il faut quand même se rappeler que le nom philosophie première veut tout simplement exprimer ce que Aristote a le premier, il faut le reconnaître, découvert avec précision. Platon, pour lui, c'est la philosophie. Et la philosophie, pour lui, regarde avant tout et en premier lieu les formes idéales, l'âme spirituelle. L'âme spirituelle ayant existé avant d'être dans un corps. Puisque si nous sommes dans un corps, ce que nous constatons, hein, ce que on pourrait dire, philosophie première, uniquement réunion des âmes. Laissez votre corps. Ben, la chapelle, c'est aussi la réunion des âmes. Hein. Alors, laissez votre corps dans vos petites cellules, dans votre lit. C'est mieux qu'il continue de dormir. Parce qu'il est toujours un peu fatigué. Et puis, on fait appel au corps, qu'on dira au réfectoire. Mais c'est intéressant de voir un peu Platon, n'est-ce pas ? Parce que c'est quand même, à partir de Platon, je ne dis pas à cause de Platon qu'Aristote a découvert ce qu'il a dit, mais c'est une philosophie qui revient constamment au platonisme. Constamment, on est en plein platonisme, avec des modalités différentes. Du reste, Heidegger. Heidegger l'a dit, toute la philosophie occidentale, c'est tout simplement des modulations de Platon. Puis, de temps en temps, il y a un drôle de bonhomme qui prétend venir à Aristote. Drôle d'idée, mais autrement, tout le monde est platonicien, néo-platonicien, néo-néo-platonicien. Parce qu'il y a Platon, néo-Platon, puis on pourrait dire néo-néo-platonicien. La philologie, c'est du néo-néo-platonicien. Du platonicien au carré. Et chaque fois, on n'est plus platonicien. C'est ça qui est extraordinaire. C'est très très curieux, et ce serait très intéressant de voir l'histoire de la philosophie européenne, puisqu'on y est, de voir que dans la philosophie européenne, c'est le platonisme. Platonisme qui revient tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la philosophie commence avec la conscience de notre pensée. Je pense. Vous voyez, Descartes, cogito. Je pense. Alors je pense, oui, je pense. À n'importe quoi, mais je pense. C'est déjà beaucoup de pensée. Et à partir de là, on va essayer de faire l'inventaire de tout ce qu'on pense. Platon a cette idée, c'est très grand Platon, hein. C'est génial, c'est artistique, c'est séduisant. Il y a des choses étonnantes dans Platon. C'est un très grand philosophe, hein. Il faut respecter Platon à sa taille. Mais évidemment, il manque complètement de réalisme. Parce que vous voyez, dire que l'âme a vécu avant qu'elle soit dans notre corps, de temps en temps rencontre, quand on doit prendre un taxi, des chauffeurs de taxi, je les rencontrais, c'est pour ça que je le dis, qui dit que dans sa vie antérieure, il était grec. Alors, je me suis mis à parler quelques mots grecs pour voir ce qui. Elle dit, ah, j'ai oublié ça. Elle dit, ah, c'est ennuyeux que vous avez oublié ça. Dis, en fait, mais ça revient, n'est-ce pas? Ça revient sur la réminiscence. Dans ma vie antérieure, j'avais quelque chose. C'est une manière d'échapper, vous voyez, à notre vie, à ce réalisme. On rêve, quoi. Et on aime bien rêver, c'est reposant de rêver. Que personne ne nous ennuie quand on rêve. Tandis que quand on est dans le réel, on est à côté d'un individu qu'on aime plus ou moins. Dans le rêve, c'est nous qui avons construit toutes les marionnettes. Alors ça va très très bien. Il y en a de mauvaises, parce que c'est forcé. Pour qu'on soit bon, il faut qu'il y ait des mauvais. C'est sûr. Il faut bien. Mais on rêve. La philosophie de Platon, c'est un rêve. Étonnant. Je crois que c'est le plus beau rêve qu'on a fait. Avec une dignité, une grandeur. Et chaque dialogue représente quelque chose de spécial. Pour Platon, l'âme a vécu avant auprès des dieux. Nous sommes tous des contemplatifs. Mais nous avons perdu notre contemplation à cause de cette chute dans le corps. Alors, la philosophie consiste à se rappeler notre contemplation. Parce que c'est beau, c'est grand. Notre corps, c'est un tombeau, c'est un puits dans lequel notre pauvre âme spirituelle se démène comme elle peut. Elle est dans une prison. Sortir de ça, c'est pour ça que la philosophie de Platon, c'est une philosophie de l'âme. Ça, je crois que c'est vraiment la trame de tout Platon, c'est une philosophie de l'âme. De l'âme contemplative, de l'âme spirituelle, immortelle, de l'âme divine. C'est ça qui est intéressant, c'est de l'âme divine et contemplative. De l'âme qui a vécu cela, mais qui, à cause du corps, est empêtrée. Alors certains en sortent, vous. Vous sortez de cette espèce de... C'est pour ça que vous êtes là. question platonicien. C'est pour ça que vous êtes là, parce que vous commencez à comprendre que votre âme n'est pas bien dans son corps. Vous n'êtes pas bien dans votre corps. Et réveillez votre âme pour qu'elle sorte un peu de votre corps. Et toute la philosophie consiste à sortir de son corps. Et un jour, ça se fera parfaitement. On attend sa mort. Pour, non pas la mort comme telle qu'on aime, non, mais la mort est une libération. Oui, au fond, c'est une philosophie de la libération. La première philosophie. Et je crois que ça, c'est très intéressant de voir que Platon, c'est une philosophie de la libération. On essaie de se libérer de ce carcan terrible qu'est notre corps, qu'est notre prison, et qui est au fond une punition. Si on est dans un corps, c'est une punition. On est condamné à ça, parce qu'on va à cause du péché. Vous voyez alors, c'est intéressant de voir qu'au fond, cette idée du péché, de la faute, est première. Elle est fondamentale. Qu'il faut quitter. Et redécouvrir au-dedans de nous-mêmes ce que nous sommes en réalité. Nous sommes divins. Nous sommes dans le commerce des dieux, dans le cortège des dieux, et nous sommes faits pour la contemplation. Aristote, jeune, arrivant à l'école de Platon, tout jeune. C'est assez étonnant, hein, de voir combien Aristote, Platon évidemment a rencontré Socrate. Faut pas l'oublier, hein. Parce que en Grèce, le maître joue beaucoup, et le disciple joue beaucoup sur le maître. Donc, il y a Socrate, Platon, il y a Platon, Aristote, et il faut toujours voir ces trois. Pour nous, pour notre philosophie, ces trois sont indispensables. Socrate, connais-toi toi-même. Puis connais les dieux, connais que tu es divin. Et Platon a commencé comme ça. Autrement, Platon aurait eu une carrière politique comme ses oncles, et puis serait resté dans la politique. Avec les Aristoïens, il était de race royale, des ancêtres qui étaient des tyrans dans le sens grec, c'est-à-dire des rois, des empereurs. Il a été arraché à la politique par Socrate. Aristote, lui, va être 20 ans à l'école de Platon. C'est énorme. Mais il n'y a pas un seul d'entre nous qui serait 20 ans ici pour être à l'école. Nous, au bout de quelques années, on croit qu'on sait la philosophie. Alors on oublie que la philosophie, c'est toute notre vie. Et que si on veut aller plus loin, on doit tout le temps revenir. Non pas par une réminiscence, mais par une expérience. Aristote, c'est celui constate que nous progressons grâce à nos expériences. Le primat n'est pas l'idée. Vous voyez, si le primat était l'idée, une fois qu'on aurait découvert nos idées, on n'aurait plus qu'à se tourner les doigts. J'ai mes idées, je suis philosophe. Alors on s'enfermerait dans ses a priori, dans ses idées. Des quantités sont comme ça, hein. On a ses cours, ça y est, c'est fait. Aristote, lui, c'est une chose étonnante du reste. Aristote, lui, regarde la réalité. L'expérience, très simple. L'expérience. l'expérience de notre corps. C'est la première expérience qu'on fait. Garder un gosse, un bébé. L'expérience de notre corps. L'expérience du milieu, de la maman, papa. L'expérience joue un rôle capital et, pour Aristote, il y a un progrès. C'est le premier philosophe qui insiste tellement sur le devenir de notre intelligence. Notre intelligence est capable de progresser. Et il n'y a pas de limite dans ce progrès. Pas de limite. On peut aller indéfiniment. Et on doit toujours tout reprendre. Mais en même temps, il découvre que l'intelligence, si elle est dans le devenir, à cause de mes expériences, à cause du monde dans lequel je suis, mon intelligence est capable de découvrir quelque chose qui est absolu, un principe. Et le passage de l'idée au principe, c'est ça. La chose étonnante qu'Aristote a faite. Et je crois que c'est exactement la situation devant laquelle on est. On est devant un hegelianisme extrêmement fort qui a pris pratiquement tout le monde. On est devant une pensée phénoménologique extrêmement forte où tout le monde raisonne sur ses idées, sur le vécu. On est devant un psychologisme extrêmement fort. C'est notre milieu. Faut arriver à découvrir que notre intelligence est capable de dépasser tout ce conditionnement dans lequel on est. On est dans un conditionnement assez analogue, je crois, à celui dans lequel se trouvait Aristote. En même temps, totalement différent. Totalement différent, vous voyez, c'est le progrès de la science, c'est le progrès de la technique. Alors là, c'est vraiment tout à fait autre chose. Mais c'est vrai qu'on est devant un conditionnement extrêmement puissant, très très fort. Le progrès de la science, le progrès de la technique fait que on est devant un monde qui pèse très fort sur nous, un milieu économique très puissant. Il faut que notre intelligence arrive à émerger. Et pour Aristote, toute la philosophie consiste à découvrir cette intelligence qui émerge. Si on arrive à découvrir cette naissance de l'intelligence comme intelligence, on commence à dépasser tout ce milieu, ce conditionnement dans lequel on est. Et l'intelligence découvre son bien. Et son bien, c'est la vérité. Je crois que c'est cela. Le jeune Aristote a compris très vite. Les historiens cherchent et voudraient beaucoup trouver un Aristote qui adhère aux idées de Platon. On n'a jamais trouvé ça. C'est assez extraordinaire, du reste. Donc on peut dire que tout de suite, la distinction qui existe entre un Aristote et un Platon, c'est que l'un commence par ses idées innées et l'autre commence par l'expérience. Alors, la grosse difficulté sera de savoir qu'est-ce que c'est que l'expérience chez Aristote. Qu'est-ce que c'est que l'expérience pour nous? Et dans notre monde, je crois que la première chose qui nous permet d'entrer un peu en philosophie, c'est de comprendre que l'expérience nous met en présence de quelque chose qui n'est pas nous. Mon voisin, c'est pas moi. Et quand je projette sur mon voisin ce que je ne suis pas réaliste. Je crois le connaître, je le connais pas. Le respect de l'autre, c'est ça que donne l'expérience. Je suis quelqu'un qui est capable de progresser indéfiniment parce que la réalité que je constate autour de moi est plus que la connaissance que j'en ai. C'est pas si commode que ça à découvrir ça. Hein. Le savant, aujourd'hui, croit que sa connaissance est la réalité. Il a beaucoup de peine de réaliser que sa connaissance, c'est quelque chose de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Et l'expérience me permet de découvrir ça assez vite. Vous voyez, quand on découvre quelqu'un de nouveau, on dit « Ah oui, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. » Au bout d'un an qu'on le connaît, « Oh, maintenant je le connais, oh, oui. J'ai mon fichier. » Je sais comment il réagit, je le connais. Et alors, on identifie la connaissance qu'on a de la perte de tel individu avec cet individu. C'est effrayant. C'est un an complet à l'égard de l'autre. Oui, ça n'a l'air de rien, ça. Mais c'est cette découverte qu'Aristote a faite. Et c'est la même découverte qu'on doit faire. Tant qu'on n'a pas fait cette découverte-là, on reste un idéaliste. Et alors on ne progresse plus. Cette parole étonnante de Merleau-Ponty, l'idéaliste n'interroge plus parce qu'il sait. Et il sait à partir de ses idées. Il sait à partir de son capital d'idées. Il a un bon fichier. Alors, il sait. Ce qu'il sait, c'est son fichier, mais ce n'est pas la réalité. C'est une banque. Tout est bien classé. Alors, il connaît tout ce qu'il connaît, mais il ne connaît que ce qu'il connaît. Et la réalité lui échappe, parce qu'il la voit à travers ses idées. Alors que c'est l'inverse qui doit se passer. Je crois que c'est ça la grande découverte d'une philosophie réaliste comparativement à une philosophie des idées, d'un primat des idées. Alors, Aristote, ayant découvert ça, ce qui n'est pas si commode, hein, que nous devons tous redécouvrir, l'intelligence est faite pour la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est de comprendre que le réel existant, moi-même, en tant que j'existe, pas moi-même en tant que je pense, moi-même en tant que j'existe, les autres en tant que je ne les ai pas faits, moi. Je ne les ai même pas choisis. On les a comme ça. Mais d'entrer au noviciat des nouveaux, on n'a pas demandé à chacun est-ce que vous l'acceptez, est-ce que vous l'acceptez, est-ce que vous l'acceptez, est-ce que vous choisissez, est-ce que vous choisissez. Non, non, pas du tout. Dieu vous l'envoie. Ah, évidemment, là, je me place dans un point de vue de foi. Mais si je me place dans un point de vue purement humain, je dirais, mais oui, ce sont des nouveaux. Comment les accueillir? On sait comment on accueille des nouveaux dans les grandes écoles. Ici, c'est pas la même chose parce qu'on est réaliste. Alors, on dit le nouveau, il m'apporte quelque chose et je ne dois pas l'abîmer. Je dois l'accepter tel qu'il est. Et je ne dis pas, ah, si tu ne m'as pas ces mœurs-là, tu n'as qu'à partir. Pas du tout. On l'accepte tel qu'il est. Parce qu'on sait que la vérité, c'est ma connaissance référence à autre chose que ma connaissance. C'est de découvrir dans ma connaissance quelque chose qui est antérieur à ma connaissance. Ma connaissance n'est pas première. Au-delà de la connaissance, il y a la réalité qui existe. Nous pouvons tous découvrir ça. Et nous allons tout le temps revenir à ça pour découvrir une connaissance réaliste. Cette connaissance réaliste est dépendante de l'expérience. Et l'expérience est donc le point de départ de ma philosophie. J'y reviendrai tout à l'heure pour la première année. Pour tout le monde, il faut comprendre ça. Toujours ça. C'est très très intéressant. Quand vous lisez un auteur philosophique, posez-vous la question, quel est son point de départ? Tout de suite. Est-ce que ce sont ses idées? Ou est-ce que c'est le réel? Si c'est le réel, on pourra quand même s'intéresser. Il y aura quelque chose de commun. Oui. Vous venez d'horizons très différents, avec des tas d'idées très différentes, comment pouvons-nous le comprendre? Parce que la réalité est la même pour vous et pour moi. La réalité est la même. Mais chacun, on l'atteint différemment. Mais la réalité est la même. Ah, tu es tel frère. C'est lui qui est au-delà de ma pensée. Tandis que si vous l'abordez selon vos idées a priori, alors chacun le regarde différemment et personne ne le regarde en lui-même. C'est gênant d'avoir 50 regards a priori. Et personne ne me regarde tel que je suis. C'est curieux, ça. Alors à ce moment-là, on est seul. La philosophie commence, la philosophie réaliste, commence quand on découvre que la connaissance que j'ai de telle réalité n'est pas cette réalité. Et que ma connaissance est vraie si de fait elle est relative à cette réalité. Et qu'elle dit quelque chose de cette réalité. Il y a des cheveux noirs. Il a des cheveux roux. Il a un nez. Regardez bien. Un nez volumineux, unique. Vous allez tout de suite découvrir. Il y avait comme ça au soir chez les Dominicains un professeur qui avait un nez magnifique. Vous reconnaissez tout de suite. Quand on parle, on n'a qu'à regarder. Il a un nez. Les autres, c'est le nez commun. Avec lui, il a un nez. Mais on reconnaît tout de suite. Caractéristique. Et celui qui fait caricature voit tout de suite ça. Alors il a grossi, c'est sûr, il n'y a plus que le nez. Mais au moins, il a reconnu qu'il y avait cinq caractéristiques. C'est en ce sens-là que la philosophie consiste à supprimer de plus en plus en nous nos a priori. Et c'est ce qui fait comprendre aussi ce que dit saint Thomas avec une telle force en philosophie réaliste. L'autorité est la dernière des raisons. Oui, comme c'est moderne, hein? On est tous d'accord là-dessus. L'autorité est la dernière des raisons. C'est quand vous ne savez plus, vous dites « Thomas d'Aquin dit ça ». C'est pas philosophique de dire ça. C'est très respectueux pour saint Thomas. Saint Thomas, du haut du ciel, sourit. Mon pauvre petit, tu n'es pas encore philosophe. C'est pour ça que tu t'appuies sur moi. Mais quand tu seras philosophe, tu ne t'appuieras plus sur moi. Tu t'appuieras sur le réel. Alors saint Thomas est réel, c'est évident. Mais autre chose est s'appuyer sur saint Thomas, sur ce qu'il dit, et sur Thomas d'Aquin, qui est. C'est pas la même chose. S'appuyer sur Thomas d'Aquin qui dit, Dixit Dhamma Dhaka. Pour qu'il y ait des martyrs, il faut des bourreaux. Dixit Dhamma Dhaka. Quand je dis ça, en m'appuyant sur Thomas d'Aquin, c'est parce que je n'ai pas encore fait l'expérience. Le jour où j'ai fait l'expérience, j'ai besoin de dire Thomas d'Avani, je sais. Je sais. En vie commune, je suis un martyr. Il y a tellement de bourreaux. Je sais. J'ai la connaissance de ça. Oui, les a priori, c'est s'appuyer sur une autorité. Or, c'est très bien de s'appuyer sur une autorité. Si je ne croyais pas qu'il fallait s'appuyer au point de départ sur une autorité, je ne ferais pas de cours. Si je fais des cours, c'est que, à la suite de saint Thomas, je dis que celui qui enseigne est une autorité momentanée. Pour le point de départ, faut s'appuyer sur un maître. Ça nous aide. Et c'est pour ça que j'ai commencé par Aristote. Oui. Je me dis, la philosophie première, c'est ça. Non. Nous commençons toujours à nous appuyer sur l'autorité. Et c'est bon de le savoir. Quelles sont nos autorités? Aucune honte à dire que la philosophie réaliste commence avec Aristote. Elle est antérieure à Aristote. C'est bien évident, un Héraclite. Oui. Même un Parménide. Oui. Mais celui qui a eu pleinement conscience de ce que c'était. Et vous voyez, grâce à Platon, il a pris pleine conscience de ça. Nous, grâce à Hegel, on peut prendre pleine conscience de ce que c'est que la philosophie réaliste. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir le milieu dans lequel on philosophe. Parce que grâce à ça, on prend mieux conscience. Donc, on s'appuie sur une autorité. C'est très vrai. Mais on s'appuie sur cette autorité en sachant que cette autorité me conduit à la réalité. Et que cette autorité n'est pas pour moi la dernière des raisons. J'aime beaucoup Aristote, j'aime beaucoup saint Thomas, j'aime encore plus saint Thomas qu'Aristote, c'est bien évident. On est plus proche. J'aime beaucoup saint Jean de la Croix, j'aime beaucoup saint Augustin. On a beaucoup d'amis. Il faut avoir beaucoup d'amis en philosophie. Beaucoup. On s'appuie sur eux. Mais on dépasse progressivement ces autorités en les saluant avec beaucoup d'amour. Et ces autorités sont heureuses qu'on les dépasse et qu'on revient constamment à eux. Constamment. Alors, il y a des maîtres vivants et des maîtres morts. C'est Topfer qui dit ça. Les maîtres morts ont cet immense avantage. C'est qu'on sait qu'ils sont des maîtres. Les maîtres vivants, on ne le sait pas toujours. Ce sont des professeurs. Ils nous enseignent. Mais tous les professeurs ne sont pas nécessairement des maîtres. Tous ceux qui enseignent la philosophie ne sont pas nécessairement des philosophes. Le temps montre les grands qui demeurent. Les maîtres vivants ont l'avantage, c'est qu'on peut les interroger. Vous voyez, si saint Thomas pouvait vous faire un cours toutes les semaines, saint Thomas viendrait. Ce qu'on l'interrogerait, ah là là là, ce qu'on lui poserait des questions, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Vous savez bien, et saint Thomas sourirait et dirait, mais oui, j'étais un peu rapidement. J'ai cru que vous étiez intelligent et que vous comprendrez. Et vous êtes resté là, figé à telle formule. Mais non, il faut comprendre saint Thomas. Puis on discute avec lui. Les maîtres sont pour nous conduire à la réalité et conduire à l'expérience que nous avons. Alors, Aristote a découvert des expériences très simples. Toutes les réalités qui sont autour de moi, elles sont mobiles. Et avant ça, je découvre que je suis capable de travailler. Ma première expérience. Parce qu'en expérience, c'est quand je suis en face d'un homme, je le découvre qu'en l'aimant et en le respectant. Ma première expérience de l'homme, c'est pas d'être chirurgien. C'est-à-dire de le travailler, de le faire pâtir. Il y a des gens qui sont comme ça. Je ne connais quelqu'un que quand j'ai vu jusqu'où je pouvais le faire souffrir. C'est du sadisme. Le sadisme est une expérience malsaine. Mais c'est une expérience et malsaine. Qui, par le fait même, est terriblement étroite. Il y a des gens qui commencent leur philosophie par faire souffrir les gens. L'autre, c'est l'enfer, c'est l'autre. On peut pâtir et on voit jusqu'où il va crier. Puis au moment où il ne crie plus, on s'arrête tout de suite pour qu'il ne meure pas, pour qu'on puisse recommencer. Il y a des philosophies sadiques. Ça, c'est sûr. Il y a des hommes sadiques. Ce sont des hommes d'expérience, malsaines. Donc comprenons, hein, dans l'expérience, il faudra être intelligent et pas prendre n'importe quelle expérience. Quand je dis la philosophie commence par l'expérience, ça ne veut pas dire du tout que le philosophe est un imbécile. Quand j'ai un accident, c'est une expérience malsaine. C'est évident. Je ne veux pas exprès dire « ayez un accident », comme ça on aura l'expérience de l'accident. Est-ce que, quand vous avez un accident, est-ce que vous êtes plus intelligent après ou avant? Ça dépend si j'ai la tête cassée. Voyez donc, l'expérience n'est pas n'importe quelle expérience. Une expérience choisie. Et quand j'ai une expérience choisie, ça ne veut pas dire que la critique est antérieure à l'expérience. Non. Ça veut dire que l'expérience est consciente. Et qu'il y a une expérience qui m'aide à aller plus loin. Une expérience moins loin. Aristote a compris tout de suite qu'il y avait des expériences internes. Je travaille. J'aime. Je coopère avec mon voisin. Et puis des expériences qui me font toucher la réalité après. Alors il aura tout de suite distingué là ce que représente une philosophie pratique et une philosophie spéculative. Elle se distingue par le type d'expérience que j'ai. Il y a certaines choses que je connais en les fabriquant. Il y a des choses que je connais en les respectant. Ben, c'est facile à comprendre, ça. Bien, vous avez deux types d'expériences tout à fait différentes. Évidemment, l'expérimentation scientifique fait un petit mélange des deux. Je fabrique et je connais. C'est curieux, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a des expériences qu'il faut transformer. Vous savez bien, Marx, Karl. Beaucoup de Karl. Il y a un Marx. Eh bien, Karl Marx a dit, les philosophes, jusqu'ici, ils n'ont rien transformé. Ils se sont contentés de connaître. Je vais transformer le monde pour le connaître. Vous voyez, il y a un petit sadisme. Hein? Parce qu'on commence par la domination. Dominer le monde pour le connaître. Alors qu'il faut d'abord le respecter et voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est grand et ce qui est petit. Alors, là, on voit très bien le tournant. Il y a eu un tournant terrible dans la philosophie à partir de là. Qui est très ancien. Parce que quand je commence par les idées, je ne respecte. Aristote a découvert qu'il y avait une sorte de méta-expérience. Il ne le dit pas, c'est moi qui le dis. Une méta-expérience qui est de découvrir la réalité en tant réalité que je vois, cette nature complexe, elle est sensible. Mais au-delà du sensible, je sais qu'elle existe. Je n'avais jamais touché l'exister comme tel, sauf par votre intelligence. Est-ce que l'exister est chaud ou froid ? Le cadavre existe, il est froid. Le vivant existe, il est chaud. L'exister est au-dessus de toutes les sensations. Et pourtant, c'est à travers les sensations que je le saisis. Aristote a découvert, progressivement, mais très vite, que l'intelligence présente dans mon expérience humaine découvrait autre chose que les sens. Quand mon intelligence est capable d'atteindre dans la réalité sensible, dans la réalité qui est en mouvement, autre chose que le mouvement, saisir ce qu'elle est. Et alors, à partir de ce moment-là, il a voulu voir si je pouvais connaître ce qui est en tant qu'il est. Cette fameuse parole d'Aristote que nous devons tous essayer de méditer, que saint Thomas a repris et que nous reprenons. Non pas du tout parce que c'est Aristote qui l'a dit, mais parce que c'est intelligent. Tout ce qu'Aristote a dit d'intelligence, c'est pour nous. Ce qu'Aristote a dit de limité, laissons-le, c'est de son temps. Mais ce qu'Aristote a dit d'intelligent, mais je le prends. Parce que Aristote m'aide à aller plus vite. C'est idiot de ne pas regarder Aristote. S'il me permet d'aller beaucoup plus vite. C'est mon sycomore. Je monte dessus. Moi, j'ai de la peine à découvrir les choses. Mais il y a quelqu'un d'intelligent qui était avant moi. Alors, j'en fais mon ami. Et si j'en fais mon ami, ça ira très vite. Parce qu'Aristote découvre ses secrets que s'il est mon ami. S'il n'est pas mon ami, je ne comprends rien du tout. Tandis que si je l'aime, alors découvrir ce qui est en tant qu'il est le to-on et on. Je ne mets pas les accents parce que je me tromperais. Alors vous n'avez qu'à les mettre, n'est-ce pas ? Le to-on, c'est-à-dire ens, traduit en latin, ens, in quantum. Ens, Thomas d'Aquin. Aristote. Ici en français, nous. Et dites ça en italien. Ce qui est. Saint Thomas dit que ens se traduit id quod est. Alors, id quod est, c'est ce qui est. Ens, id quod est. Aujourd'hui, avec l'influence de Heidegger, on traduit étant. C'est pas juste. C'est intéressant, simplement, de savoir. Parce que c'est beaucoup plus profond. Ça n'a l'air de rien, ça. Mais vous voyez, quand je dis le to-on et on, c'est ce qui est qui m'intéresse. C'est ce qui est. Je le mets en pleine lumière. Ce qui est en tant qu'il est. Je laisse tomber ce qui, pour ne regarder que est. Parce que si je mets étant, je bloque les deux. Et je reste en face d'un être tel qu'il est, concret. Or, l'intelligence est au-dessus du concret et d'abstrait. C'est ça qui est merveilleux. Concret et abstrait, c'est moi. C'est ma manière de voir. Est-ce que vous êtes concret ou vous êtes abstrait ? Vous, en tant que vous existez, j'existe. J'existe. Et l'exister. mais je connais d'une manière concrète ou d'une manière abstraite. Ça, c'est ma manière de connaître. C'est très simple. Je connais d'une manière concrète ou abstraite. Blanc, blancheur, ce que cet homme apprend tout le temps, ce qui est très très important à comprendre. Saint Thomas, ça a été ça, la clé, pour comprendre le néoplatonisme, pour comprendre Platon. Platon n'a pas fait cette distinction. Je connais d'une manière concrète blanc, le blanc du mur. Et puis la blancheur. Est-ce que vous avez expérimenté la blancheur? Est-ce que vous avez touché la blancheur? Vous ne voyez ça que dans les réclames. La blancheur, vous savez bien. Pour avoir du linge blanc, prenez le persil. Alors, allez, blancheur, blancheur. Vous n'avez jamais expérimenté la blancheur. On est tous d'accord. C'est seulement dans mon intelligence. Et vous regardez le dictionnaire, qu'est-ce que c'est que blancheur? Blanc, c'est ce qui est blanc par la forme blancheur. Très difficile de définir la blancheur. Vous voyez, blancheur, ce par quoi blanc est blanc. Il y a tous ces étages. Ce par quoi, donc, c'est une forme. Abstraite. Alors que blanc, c'est quelque chose que j'expérimente. Je peux comparer le blanc de la neige et le blanc du mur et le blanc du visage. Au terme du carême, ah, tu es blanc comme la neige. Tu as bien fait ton carême. Oui, blanc. La blancheur de la figure d'un moine. Pff, il prend jamais de viande. C'est vrai, on a tous eu ces expériences extraordinaires de voir ces choses-là. La blancheur de quelqu'un qui a été malade pendant... Ah, ce que tu es blanc. Faut pas le dire devant lui, mais on le dit devant. Après, il l'entend. Ce que tu es blanc. Blancheur. Ça n'a l'air de rien, mais ça te va, transpose. Ens. La comparaison. Ens esse. Esse, ce par quoi ens est ens. Ce par quoi ce qui est, c'est esse. La forme abstraite. Il y a une forme concrète et une forme abstraite. La forme abstraite est au-delà de l'expérience. La forme concrète est l'expérience. Or, je ne progresse que par mon expérience. Prenez l'exemple libre et liberté. La liberté, est-ce que vous l'avez vue? Oui, dans un journal, dans une statue. Statue de la liberté, quand vous arrivez à New York. Statue de la liberté. Mais la liberté, est-ce que vous l'avez vue? Or, on cherche indéfiniment qu'est-ce que c'est que la liberté. Mais non, chercher ce que c'est qu'un acte libre. C'est pas la même chose du tout. Un acte libre, vous en avez l'expérience, mais la liberté, pas du tout. Et on perd un temps énorme à chercher ce que c'est que la liberté. On perd un temps énorme à chercher ce que c'est que la blancheur. Vous ne progressez pas quand vous restez dans l'abstrait. Vous ne progressez que quand vous êtes en concret. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais bon, c'est ces petites déviations qui très vite deviennent des choses énormes. Cette petite parole d'Aristote hein, qu'il ne faut jamais oublier. La déviation à la source devient quelque chose d'énorme dans le fleuve qui se jette dans la mer. On a un petit exemple très simple en Suisse. Quand on va à la source du Turin, à la source du Rhône. Ils sont très proches, pas loin. Quand vous regardez le Rhin et quand vous regardez le Rhône, le trajet est tout à fait différent. Et pourtant, les sources sont très proches. La déviation à la source entraîne. Et la source, c'est quoi? C'est ce que vous touchez dans votre expérience. Blancheur n'est pas une source. SC n'est pas une source. C'est S. Ce qui est. Il faut toucher la source. Et quand on va à la source, alors, on se rajeunit tout le temps. C'est-à-dire qu'on découvre toujours quelque chose de nouveau. L'expérience du concret. Ah, évidemment, quand j'ai cette expérience, je ne demeure pas dans cette expérience. Si je demeurais dans cette expérience, je décrirais l'expérience. Mais je vais beaucoup plus loin que l'expérience. Le philosophe, à partir de l'expérience, se pose une question. Ce qui est, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez, on pose une question. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et alors c'est très curieux que l'interrogation fait passer du concret à l'abstrait. L'être, c'est abstrait. Vous n'avez jamais saisi l'être. Moi non plus. Mais j'essaie de comprendre ce qui est. Et je reviens toujours à ce qui est. Et mon interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Je suis passé de la forme présent, ceci est, à la forme de l'infinitif, qu'est-ce que c'est que l'être? Et ceci se fait dans la forme grammaticale d'un verbe. C'est très très curieux, ça. Vous voyez, le philosophe s'intéresse au langage, mais ma philosophie ne repose pas sur le langage, à la différence de Heidegger. Ma philosophie ne repose pas sur le langage. Pourquoi? Parce que dans le langage, c'est toujours quelque chose de second. C'est jamais premier. C'est pour ça que Saint Thomas dit qu'on ne discute pas sur le langage. Donc voyez bien, la philosophie réaliste revient toujours à l'expérience. Et il y a une méta-expérience. Et que toutes les choses que j'expérimente existent. Elles sont. Et donc, à un moment donné, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? À partir de ce jugement d'existence, ceci est. Et ceci est, je l'atteins à travers mes sensations. Dans vos rêves, vous n'atteignez pas ceci est. Vous restez dans votre rêve, dans les formes imaginatives. Vous n'atteignez jamais ce qui est. Quand vous vous réveillez, ah oui, dure expérience, le réveil sonne. Quand le réveil sonne, vous passez d'un rêve étonnant à la dure réalité. Là, vous mesurez votre tonus vital. Si votre tonus vital est grand, ah, quelle joie de se réveiller. Ah, on va aller prier. Ah, quelle joie. Et vous sautez en bas de votre lit, rapidement, à toute vitesse, vous courez. Ça, c'est le tonus vital. Et c'est l'expérience qu'on fait. On passe de l'abstrait. C'est abstrait, le rêve. Terriblement abstrait. Il y a des gens qui ne sortent jamais du rêve. Toujours à moitié endormi. Rêve éveillé. Cette formule du rêve éveillé est excellente. C'est une contradiction merveilleuse, mais c'est merveilleux. Rêve éveillé. On reste dans le rêve. Et on est éveillé. À moitié. Un œil. Puis l'autre. Et là, à partir de... Ah, le réel. l'intelligence touche le réel. Ceci est. Et la métaphysique commence quand on a découvert ce jugement d'existence au-delà de l'expérience. C'est l'état-expérience que l'intelligence fait à travers l'expérience. Sans du tout rejeter l'expérience, non, non. Mais au-delà de l'expérience. Ce que je touche, ce que je vois, c'est toujours des êtres qui sont dans le devenir. Et à travers ce devenir, l'intelligence saisit que cette réalité existe. Cette réalité